François Baroin regarde le On Air, ça lui rappelle de bons souvenirs, je pense.
La radio.
La radio. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais vous demander, un peu comme d'habitude, de ne pas oublier de mettre vos téléphones portables soit sur ne pas déranger, soit sur avion, enfin comme vous voulez, de sorte qu'il n'y ait pas de sonnerie intempestive. Alors, on va faire, entre guillemets, vite, parce que François Baroin a des obligations parisiennes, et maintenant, comme vous le savez, la liaison très rapide fait qu'on vient facilement à Bordeaux, mais on peut en repartir aussi rapidement. Voilà. Et il y aura, évidemment, on va garder du temps pour quelques questions avec la salle, et puis aussi, bien sûr, une petite séance de signature. Ça commence même avant qu'on ait le temps, la sonnerie de téléphone, la séance de signature habituelle. Moi, je suis très content d'avoir eu l'occasion de lire et de présenter en sa compagnie ce livre de François Baroin. D'abord, parce que je peux le dire, François Baroin, c'est une personnalité que j'aime bien. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il se trouve que dans un passé lointain, je crois qu'on a eu un ami proche en commun. Et ce livre, ça s'appelle Une histoire de France par les villes et les villages. Alors, c'est un gros bouquin, hein, 455 pages. Moi, j'ai eu la curiosité, mais c'est un peu un excès de zèle. J'ai mis tous vos 105 cas sur Excel pour faire un traitement statistique. J'ai vu que tous les départements, y compris les Drôme et même la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, sont concernés. Un cas, un village par département. Et il y a trois départements qui font l'objet de deux villes ou villages traités. Le Loir-et-Cher avec Chambord et Crouy-sur-Cosson, le Lot avec Pechmer, les Saint-Jean, l'Espinasse, et puis la Savoie avec Chambéry et Tignes. En fait, c'est un voyage dans les 101 départements, plus les pays d'outre-mer que j'ai cités, auxquels nous invite François Baroin. 23 chefs-lieux hein, au total, et il y a 7 grandes parties, et c'est vraiment une histoire de France qui procède en quelque sorte d'un maillage et d'un mariage très intelligent entre la géographie et puis l'histoire. Alors, dans votre livre, vous avez page 11, une phrase que j'ai relevée, vous dites « Voir défiler le tissu des paysages de France, résultant de choix millénaires, de cultures et d'implantations humaines, c'est comme dérouler un textile qui fait texte. » Très beau texte, ça, c'est le cas de le dire. Très belle phrase. Et on songe, évidemment, en vous lisant, à la fameuse phrase du grand historien Ernest Lavisse, hein, historien de l'école publique, celui que Pierre Nora a appelé l'instituteur national. J'ai amené la réédition hein, complétée du fameux Lavisse, hein, l'histoire de France de la Gaule à nos jours, avec cette fameuse phrase de Lavisse qu'on connaît bien. « Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. » d'ailleurs, Lavisse est la première référence de votre bibliographie en fin d'ouvrage. François Baroin, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez voulu réhabiliter dans votre livre? Est-ce que c'est une certaine idée de la France ou est-ce que c'est une certaine image de la France?
C'est une excellente question. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci aussi à la librairie Mola, et je la félicite pour l'installation de ce cycle de conférences. Et merci de votre présence. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? C'est d'abord l'expression d'une passion. On ne peut pas être engagé en politique comme je le suis depuis 25 ans si on n'a pas une passion du pays, si on n'a pas une passion des Français, et si, au fond, on n'a pas une passion de l'histoire, de la construction de notre pays tel qu'il s'est présenté. J'ai toujours été passionné d'histoire, toujours beaucoup lu. Au fond, je n'ai jamais, malgré tout, rencontré ce qui, moi, dans mes responsabilités politiques, m'a toujours passionné, c'est-à-dire partir du local et imaginer que d'une idée locale, on puisse le décliner de la manière la plus globale possible. Et l'angle que j'ai pris, c'était vraiment la construction de notre pays, vous l'avez dit, par 7 têtes de chapitre qui vont, au fond, en effet, du constat que l'histoire d'un pays est dans sa géographie. Ça l'est encore plus pour un pays comme la France, qui, par sa géographie, est en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, béni des dieux, puisque nous avons des rivages ouverts sur trois mers, avec un climat continental. Bordeaux en est l'excellente représentation, puisque vous avez des hivers tempérés à raison de la présence de l'océan, et vous avez des étés, même si cet été vous avez eu 12 jours à plus de 35 degrés, qui globalement marquent le caractère tempéré continental Et donc c'est un élément de réussite qui fait que les populations se sont très naturellement et très rapidement mises en place dans des bassins de vie, ou qui sont devenus des bassins de vie de la géographie d'un pays comme la France. Donc cette construction a structuré des bassins de vie, qui a ensuite organisé une appartenance commune à une identité géographique, puis sous la royauté, l'aspiration à un peu plus de liberté, puis la révolution, puis l'appartenance à la nation, puis la conquête de cette souveraineté nationale, puis la vérité de l'histoire de la République qui nous mène dans nos valeurs depuis maintenant près de deux siècles, mais plus singulièrement depuis 150 ans. Et j'ai voulu montrer au fond que toute l'histoire de notre pays, à travers des choix de caractère, de personnages, de faits divers qui ont structuré de manière assez vigoureuse la société française, mais aussi d'éléments très connus, de guerre de religion, singulièrement d'ailleurs ici, un peu plus qu'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas choisi, par exemple, de parler de Bordeaux. J'ai plutôt choisi de parler ici de Castillon, la bataille, qui est au fond la fin de la guerre de Cent Ans, avec l'interruption définitive de cette guerre entre les protestants, qui ont été massacrés, puisqu'il y a un équivalent de la Saint-Barthélemy ici à Bordeaux. Mais si j'avais choisi Bordeaux, on peut aller de Montaigne à la Boétie, en passant par Montesquieu, plus les bâtiments, l'ouverture, la construction des ports, éventuellement des points plus ambigus ou plus particuliers, comme il en existe dans chaque ville. Donc j'ai retenu ce qui m'a passionné, donc c'est arbitraire et subjectif, des personnages qui m'ont enthousiasmé, des histoires que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de croiser ou d'apprendre dans l'exercice de mes responsabilités ministérielles, mais avec une rigueur historique, avec une construction historique qui fait que les gens qui sont passionnés d'histoire de notre pays retrouveront des éléments fameux, de la bête du Gévaudan au procès de Rouen, en passant par les bourgeois de Calais, ou des traités importants qui ont modifié en profondeur la construction de notre pays, et ils découvriront des histoires, des personnages, des singularités. Donc pour répondre à votre question plus directement, au fond, c'est un biais sur l'identité de notre pays par l'importance de l'enracinement et de ce que représente cet enracinement pour chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui.
Ce qui est passionnant, ce sont les couches et les sédimentations successives. On a presque l'impression que vous faites aussi, vous nous faites une sorte d'archéologie de la France. Et on le voit en particulier dans les...
Je commence par des ossements.
Et c'est exactement. Ouais. Et alors, j'ai choisi, on va essayer de faire assez vite, mais j'ai choisi dans chacune des parties, alors là, c'est mon arbitraire à moi, une histoire... quelque chose qui m'a peut-être un peu interpellé. La première, ça s'appelle « La France d'avant la France ». C'est assez passionnant. Vous disiez, je commence par des ossements. Et page 36, alors n'y voyez pas malice, on va s'arrêter au Puy-en-Velay. Et vous écrivez les grands pèlerinages chrétiens qui, au 19e siècle encore, mobilisaient des foules entières désireuses de rendre une dévotion ardente au culte de la Vierge Marie, le Puy... rayonnait avant que Lourdes ne s'impose ou que Lisieux n'émerge. Marie et la France, c'est l'histoire de la fille aînée de l'Église. Et vous racontez quelque chose qui est tout à fait passionnant, ce qu'on appelle les pierres celtes, qui sont des objets de culte qui ont pu faire l'objet, on va dire, de récupération, de réappropriation par le christianisme. Pourrait raconter, mais il le sait certainement, vu que c'est un homme de très grande culture, au maire du Puy-en-Velay, que c'est exactement ce qui s'est passé avec la fameuse Kaaba, la fameuse pierre noire à la Mecque. Vous savez que les tribus yéménites adoraient cette pierre avant que le prophète ne l'incorpore, on va dire, dans le corpus du Coran. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est finalement, est-ce que là, comme ailleurs, un peu comme dirait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dernière remarque, puisque vous dites, en politique, on hérite beaucoup plus qu'on ne renie ou qu'on ne trahit.
Alors, il y a effectivement, à la fin de chacune de ces histoires...
Morale.
Oui, il y a eu un commentaire, d'ailleurs, qui était assez amusant, mais qui est assez vrai. Quelqu'un a lu mon livre en même temps qu'il a relu les fables de La Fontaine. Donc forcément, il y a une interprétation, et aussi forcément, cette interprétation est subjective. Donc chacun se tiendra à égale distance des petits couplets personnels d'enseignement que je tire. Mais après tout, ça donne aussi de la densité, puis un regard... objectif de mon point de vue, subjectif pour celles et ceux qui ont un regard un peu différent de celui que je peux porter. Mais l'affaire du Puy-en-Velay, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que ceux qui sont animés de cette espérance et d'une ferveur se tiendront eux aussi à distance de cette formulation qui est la vôtre. Mais en revanche, mettre en lumière la réalité de l'histoire de cette pierre qui est était une pierre, en fait, nous sommes au 4e siècle, et une femme va vers un dolmen, et ce dolmen était en fait une pierre qui avait la réputation d'être utilisée par les druides, parce qu'elle avait la réputation, cette pierre, de soigner les fièvres, elle était curative. Et au 4e siècle, une jeune femme va auprès de la pierre pour se faire soigner et voit l'apparition de la Vierge. C'est une première révélation. Elle appelle le curé de la paroisse qui vient et qui voit également la Vierge. Une église a été bâtie sur cette pierre. Et c'est de là que, d'une certaine manière, nous pouvons considérer que la chrétienté, dans sa construction, dans sa ferveur, dans son espérance, dans son point de départ, puisque c'est aussi le point de départ pour celles et ceux qui, en passant d'ailleurs par Bordeaux, vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, partent du Puy-en-Velay et font ce pèlerinage, qui est un pèlerinage métaphysique, religieux, animé d'une grande et belle ferveur, qui est au fond l'appartenance à l'Église catholique, la foi chrétienne et aussi l'adoration de Marie. Et c'est assez singulier de voir, en effet, que cette pierre qui, plusieurs siècles auparavant, utilisée par les druides dans ce qui n'était pas une confession à l'époque, mais une pratique plutôt animiste de croyance dans les arbres, dans les dieux, le dieu soleil, le dieu orage, le dieu terre, le dieu arbre, et que cette pierre avait ses vertus et que ce soit devenu aujourd'hui la référence du point de départ de la chrétienté jusqu'à aujourd'hui. C'est si vrai d'ailleurs qu'on a bâti une église au-dessus de ce dolmen. Et lorsque vous prenez la référence, effectivement, de la pierre noire à la Mecque, vous pouvez observer que dans toutes les religions du livre, il y a une continuité des anciennes croyances qui, d'une certaine manière, se sont structurées à travers un prophète ou quelqu'un qui a éclairé le temps, en tout cas qui est le repère aujourd'hui de celles et ceux qui se retrouvent comme étant des fervents et des croyants de chacune de ces églises.
Il y a un très beau texte de Cornelius Castoriadis qui s'appelle L'institution imaginaire de la société.
Oui, il est référencé. Oui.
Et qui parle de ça, en particulier dans l'Andalousie, de la reconquête. Hein, voilà.
Oui, bien sûr, l'Andalousie, comme d'ailleurs pour une partie ici de la Guyenne, voilà. Aujourd'hui la Gironde, a été traversée par une période mort assez forte.
Alors je ne voudrais pas qu'on parle de votre livre sans évoquer... Non, c'est gentil, vous avez parlé de la bataille de Castillon, mais dans la deuxième partie, il y a quand même une ville qui vous est chère, c'est votre bonne ville de Troyes, hein, dont vous dites qu'être maire de Troyes depuis 22 ans, c'est pour vous un honneur de chaque instant. Au XIe siècle, en 1040, naît à Troyes, celui qui va être un des grands maîtres de la théologie juive, pour lequel moi j'ai une profonde admiration, qui est dans les commentaires de la Torah, sont encore évidemment d'actualité. Hein. Il s'appelle de son vrai nom Rabbi Shlomo Isaac Tsarfati, mais on le dit Rachid. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous rattachez Rachid à ce que Montesquieu appelle, alors pour le coup c'est Bordeaux, le doux commerce. Et vous dites finalement, Rachid a eu l'intelligence de constituer un peu des accommodements raisonnables. Alors, c'est extraordinaire ce chapitre, parce qu'on trouve des trucs pour permettre au commerce de fonctionner. Ça existe toujours à Troyes, ça.
Les accommodements raisonnables existent sûrement à Troyes, comme ils existent à Bordeaux, comme ils existent. Et heureusement, on est une république, un principe démocratique, et donc la nécessité de dégager un consensus pour éviter des oppositions, des zones de frottement, ça fait partie, au fond, de la matrice de chaque maire de France. Par exemple, sur Troyes, j'aurais pu choisir plein d'autres thèmes qui pouvaient légitimement trouver leur place dans cette histoire de France. J'aurais pu choisir le traité funeste de 1420 qui donne la France à l'Angleterre après une bataille homérique. J'aurais pu choisir, dans une histoire plus récente, un personnage. Ça aurait pu être le docteur Coué qui a donné son nom à une méthode qui nous est très familière et qui est une espèce de bien-pensant sur le thème « Demain, il fera toujours beau ». Ce qui est d'ailleurs assez agréable à se dire, parce que justement... Oui,
qui était un peu caricaturé, hein, cette méthode.
Elle a été, c'était un pharmacien à l'origine, et au fond, il avait plus ou moins donné des consignes à ses clients sur le thème « Prenez ça », qui était de la poudre de perlimpinpin, vous sentirez mieux. Et les gens se sentaient mieux, même s'ils avaient toujours de la fièvre haute, mais ils se sentaient mieux. Et c'est comme ça qu'on s'est dit « Tiens, il a une technique de vente », et c'est comme ça que la méthode Coué est devenue ensuite, dans l'inconscient collectif, quelque chose qui nous est aujourd'hui familier. J'aurais pu choisir, évidemment, plein d'autres choses. J'aurais pu choisir l'industrie textile, j'aurais pu choisir les bonnetiers, j'aurais pu choisir aussi, je m'étais interrogé, de prendre la plaidoirie de Robert Badinter dans les années 70, au moment où il défendait Patrick Henry, qui avait tué le petit Bertrand, et qui, en fait, ce drame qui a endeuillé la ville de Troyes, a abouti à la proposition de François Mitterrand, une fois élu, à l'abolition de la peine de mort. Ça aurait eu du sens. Mais j'ai choisi Rachid parce que, d'abord, c'est un immense personnage de notre ville. On en a eu trois. On a eu Chrétien de Troyes, qui est le père, évidemment, des chevaliers de la Table Ronde, Saint-Bernard, et toute la déclinaison de Clairvaux et des Cisterciens, et naturellement Rachid. Rachid est moins connu, mais il est mondialement connu. vous l'avez dit, c'est l'interprète du Talmud. Ses écrits, ses interprétations de la Torah font partie aujourd'hui des éléments de formation de tous les rabbins au monde. Et c'est l'élément de référence de l'interprétation du Talmud par tous les grands rabbins qui guident les représentants des communautés dans chacun des pays où les Juifs sont installés. La communauté juive, d'ailleurs, est assez importante à Troyes. Et ce personnage, nous sommes au Moyen-Âge, à la grande période des foires de Champagne, effectivement...
Le siècle, hein,
oui. Ouais, et est un repère et une référence parce qu'il est très rigoureux, pour ne pas dire rigoriste. Il définit les règles du mode de vie de la communauté juive dans cette période d'une ville qui était vraiment au centre de la France à l'époque, puisque c'était le carrefour des foires de Champagne. Il y avait Reims, il y avait Provins, il y avait Sens, il y avait une partie du Gâtinais, mais il y avait Troyes. Et Troyes, c'était la capitale des comtes de Champagne, et c'était le point de convergence économique des gens de Flandre qui commercialisaient une partie des laines anglaises, et des gens du sud de l'Italie qui, eux aussi, commerçaient essentiellement autour des laines, du fil. C'est pour ça que le textile fait partie aussi de mes comiques de répétition, si on peut trouver un peu de drôlerie dans tout cela, parce que c'est aussi un élément de référence et une racine. Et Rashi, en fait, au moment des commerces, il y avait l'habitude, lorsqu'il y avait un achat très particulier pour une partie de la communauté juive, de tuer une brebis. Mais à l'époque où une partie de ces foires se déroulait, il y avait une famine. Et en logique pure, évidemment, il fallait tuer la brebis. Mais en logique pratique, Rashi a théorisé la définition de la règle et de son application qui devait s'adapter au temps présent. C'est comme le sage que l'on interroge pour aller en Inde, où vous savez que les vaches sont sacrées, on ne peut pas les manger. Mais quand il y a une famine, on aboutit à la conclusion, en logique pratique, je dois la manger, en logique pure, je ne peux pas le faire parce que j'atteins le sacré. Rashi, lui, il a inversé l'ordre des priorités tout en étant un homme d'église et en essayant d'expliquer qu'il fallait s'adapter au contexte du temps, à la situation particulière et au cadre général du mode de vie ensemble pour éviter, là encore, des zones d'affrontement. Et donc, c'était aussi un homme de paix.
Et c'est tellement fort ce que vous dites que je me permettrais d'ajouter, moi qui ai beaucoup travaillé sur la problématique de la Shoah, que cette interprétation de Rashi a servi à les rabbins, en particulier d'Europe de l'Est, pour expliquer qu'il fallait évidemment déroger tout ce qui était la règle cachère, etc., pour survivre dans les camps, évidemment, et qu'on pouvait se libérer ainsi de cette obligation presque impérieuse du cacheroute.
Hein, voilà. Absolument.
Il s'appuyait Absolument. Sur les textes de Rashi pour cela. Alors après, il y a la lente montée de l'État. Alors c'est tout à fait passionnant. Il y a plein de choses sur cette période. Et alors, en 1610, c'est l'année de l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Vous évoquez la figure, j'allais dire, de votre saint patron. Alors ça m'a fait un peu rire parce que bon, je crois un petit peu vous connaître et votre famille. On peut dire que vous êtes forcément un dévot, mais vous avez été un grand journaliste, de mon point de vue, avec une très belle voix à Europe 1. Et saint François de Sales, moi je ne savais pas, est le saint patron des journalistes. Il était évêque d'Annecy et avec Jeanne de Chantal, il va créer l'ordre des visitandines. Alors pourquoi c'est choisi Saint François de Sales?
D'abord parce que j'ai adoré ce métier de journaliste. C'était mon premier métier, c'est ma formation. C'était un métier de liberté. J'ai adoré la radio et j'ai adoré cette capacité, au fond, d'avoir la chance d'ouvrir son micro et les gens vous racontent leur vie. Donc c'est voilà, quand on aime les gens, la politique ou le journalisme sont des métiers de contact, d'ouverture, de compréhension et d'être de son temps. Et j'aimais cette profession et c'est toujours intéressant de voir qui est le patron. Et Saint François de Sales, effectivement, est pas la référence la plus connue. Je suis pas sûr d'ailleurs que beaucoup de journalistes sachent que Saint François de Sales est leur patron. Mais en revanche, l'histoire elle est intéressante.
C'est tous des mécréants quand même.
Comment?
C'est parce que c'est tous des mécréants.
Non, je crois pas parce que bon, c'est pas parce que mon père était grand maître du Grand Orient que mon éducation catholique à Stanislas ne m'amène pas à penser que j'ai eu la chance d'avoir un père qui lui n'était pas animé d'une ferveur, mais a voulu donner sa chance à ses enfants. Donc au fond, ça fait partie là aussi de notre histoire. Et cette référence à des saints, elle fait au fond partie désormais d'une mythologie et d'un cadre qui structure quand même notre société. Enfin bref, chaque profession a son saint et les journalistes ont Saint François de Sales. Alors pourquoi ils l'ont? Nous sommes à Annecy, en effet, il est évêque et lui, est vraiment évangélisé. Voilà. Il veut faire en sorte que tout le monde soit pieux, soit catholique, soit fervent, soit pratiquant. Et il se heurte à un certain nombre de difficultés. Tout le monde ne veut pas, tout le monde ne comprend pas. Nous sommes à une période très ancienne. Et il se dit, je vais, pour écraser la craie en quelque sorte, écrire régulièrement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et l'addition de ses écrits, il les a reliés. Et c'est en fait considéré comme étant la première publication de mise en forme de ce qui était un journal au service de la pratique, de la ferveur et d'une croyance. Et c'est ainsi que sur la base de cette première publication en ordre méthodique avec un objectif qui était une évangélisation, il devient petit à petit la référence de ceux qui écrivent et qui sont ensuite les hommes de plume d'abord et puis après des hommes de radio, de télévision et aujourd'hui d'internet qui sont les journalistes.
D'autant qu'il était, on est en 1610, il était à Annecy parce qu'il s'était replié sur Annecy parce qu'en fait à Genève les calvinistes ne voulaient pas entendre parler de lui, hein. Il a vraiment cette concurrence. Hein,
oui, mais il était vraiment animé de sa ferveur, et c'était vraiment un homme de foi, et c'était un homme de conquête.
Oui, voilà.
Et en 1610, on est 12 ans après, après l'édit de Nantes, c'est-à-dire, c'est-à-dire l'installation quand même de la paix entre les protestants et les catholiques, édit de Nantes qui est révoqué en 1685, où là encore et à nouveau, on se retrouve et on rebascule dans des guerres d'opposition de religion entre la réforme et l'église traditionnelle.
On avance dans la partie 4, la nation et ses marges. Là, il y a un fait divers. Vous parliez, vous disiez tout à l'heure, je me suis intéressé au fait divers. Bon, Cabadis dit que les faits divers, c'est une sorte de mantra extraordinaire pour comprendre les sociétés. Ça, c'est tout à fait vrai. Là, il y a un épisode que je vous recommande qui s'appelle Les chauffeurs de la Beauce en 1798. C'est une véritable société du crime, dites-vous. Hein, et il se trouve que le premier consul, Bonaparte, a plutôt intérêt à rétablir l'ordre. Enfin, c'est une sorte de bande à Bono hein, avant l'heure. Mais enfin, c'est des terribles truands. Quoi,
il faut bien voir qu'on est en 1798. C'est-à-dire qu'on est 9 ans après la Révolution française. La Révolution, c'est une aspiration de la liberté. C'est la révolte des Lumières qui s'exprime vis-à-vis d'un pouvoir qui incarnait à la fois l'Église, mais aussi le pouvoir politique. Il y a eu ensuite un mouvement de contre-révolution après la Terreur. Il y a eu une tentative de restauration, mais dans l'intervalle, entre un pouvoir très structuré qui a vécu jusqu'en 1789 et après, ça a été quand même une vaste zone de foutoir généralisé où finalement l'esprit de la liberté qui devait aboutir grâce à la déclaration du 26 août 1789 à un cadre de droit précis n'a pas été la force du droit mais a été le droit de la force. C'est ça que j'ai voulu prendre à travers cet exemple et que le droit de la force, c'est-à-dire la liberté du renard dans le poulailler, la loi du plus fort, elle s'exprimait à travers une organisation dans un certain nombre de villages où chacun faisait sa propre loi. Et effectivement, la bande des chauffeurs de la Beauce...
Pourquoi chauffeur, François Baroin?
Comment ?
Pourquoi chauffeur, faut dire ?
Bah, je vous laisse le dire. Non, je vous laisse le dire.
Ils chauffaient les pieds hein, de leur victime, quoi, hein, pour leur faire avouer où était.
C'était des éléments de leur pratique de torture. Voilà. À eux, en Asie, on met des pousses de bambou et on les allume comme des cigarettes. Là, c'était pour les chauffer jusqu'à un point que ce soit absolument insupportable et intolérable. Mais ils étaient très nombreux, 300 à 400. Ils avaient pignon sur rue. C'est-à-dire qu'ils avaient une couverture.
Société mafieuse.
Et une société mafieuse, c'était une secte en réalité, une secte de puissance. C'était des pillards, des bandits de grand chemin, mais organisés, structurés. Et ça menaçait profondément non seulement la fin de ce bloc de la Révolution de 1789 jusqu'à la fin de la Terreur, qui est un cycle complet hein, et qui a mis en perspective la capacité de Bonaparte effectivement à devenir ensuite le leader du pays pour en construire un empire et ensuite tenter une restauration, mais sous une forme impériale et non plus royale.
Alors 6 ans plus tôt, il y a la fameuse bataille de Valmy. Vous dites Valmy, toujours Valmy. Lavis hein, termine d'ailleurs ainsi son évocation de la célèbre bataille, tout le monde le sait, du 20 septembre 1792 à Valmy. Nos jeunes soldats furent courageux et ils furent victorieux parce qu'ils aimaient de tout leur cœur la France, notre patrie. C'est ce que dit Lavis.
Oui.
Alors vous en parlez de Lavis, de Valmy, parce que d'abord c'est émouvant, parce qu'il faut rappeler que votre papa, avant sa disparition tragique en février 87, avait été nommé par François Mitterrand à la tête de la mission du bicentenaire. Ça va être confié après à Edgar Faure, auprès de qui votre papa avait travaillé. Vous allez travailler avec Edgar Faure, qui va d'ailleurs disparaître un an plus tard. Et vous dites, il radotait pas du tout Edgar Faure, personnage étonnant, hein. Procureur adjoint représentant la France au procès de Nuremberg, hein, quand même. Et là, il y a quelque chose de très fort. Vous parlez des valeurs et des idées, et vous dites, parfois, les belles idées sont affaiblies autant par leurs adversaires que par les imposteurs qui s'en réclament sans les vivre.
C'est vrai.
Il y a de l'intertextualité dans votre
texte. Oui, mais je n'ai pas donné de liste de noms. Hein, c'est une réflexion, peut-être en fin de soirée. Je ne sais plus à quel moment j'ai dû rédiger ça. Mais on a tous rencontré des gens qui se drapent dans une vertu qu'ils n'ont pas toujours dans l'exercice de leur responsabilité ou de la confidence. Chaque vie a ses secrets, l'amour a ses mystères, et au fond, chaque existence ensuite écrit sa propre trajectoire. Et, en politique, on rencontre souvent des gens qui marquent au bout d'un moment de leur existence un caractère spectaculaire d'écartèlement entre ce qui a été porté comme discours et la réalité de l'expression de ses sentiments dans leur application quotidienne. Mais Valmy, je mets Valmy, vous avez eu raison, et je vous en remercie d'évoquer cette référence, parce que c'est vrai que cette période du bicentenaire a été une période importante dans ma construction personnelle. Bon, c'est un fait, ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand même de considérer que 1789, c'est ce que j'évoquais. C'est l'abolition des privilèges, c'est l'aspiration à la liberté individuelle, c'est la victoire des Lumières. C'est d'une certaine manière, on tourne la page et on essaye d'écrire une histoire moderne où chacun trouve sa place, un homme, une voix. C'est une longue conquête, mais ça ne s'est pas fait tout de suite et pas immédiatement. C'est pas parce que la Bastille tombe que les libertés s'affirment pour chacun. C'est pas parce que les privilèges sont abolis dans la nuit du 4 août qu'ils n'en demeurent plus. C'est pas parce que le 26 août 1789, les constituants de l'époque écrivent probablement le plus beau texte juridique, mais aussi le plus beau texte du vivre ensemble, qui fait que la France aujourd'hui est la France, parce que la conception universelle des droits de l'homme nous amène jusqu'à aujourd'hui. Il y a une permanence, ce qu'évoquait Edgar Faure, il y a une permanence de cette philosophie des droits de l'homme. Et c'est pas parce que il y a eu ce mouvement global d'une génération qui s'est levée, qui a demandé un espoir et qui a combattu, que finalement la victoire de la liberté était acquise pour l'éternité. Car il y a eu une révolte à l'envers. L'ensemble des royautés qui entouraient la France se sont liguées pour, au fond, éviter la contamination. Un peu comme pour le printemps arabe, qui sont tombés comme des dominos, où le phénomène d'aspiration à la liberté vis-à-vis de pouvoirs forts s'était manifesté, et petit à petit, chacun des pays est tombé. Là, ils ont eu un réflexe, au fond, d'autodéfense. Et donc, une armée se met en place, et ils sont sûrs de gagner. Parce que nos jeunes en 1791-92 ne sont pas organisés, ils ne sont pas formés. On ne pense pas être capable que la Révolution donne naissance à une armée structurée. Et contre toute attente, ils gagnent. C'est pour ça que Valmy est très important dans l'histoire de notre pays. Car si cette victoire n'avait pas été au rendez-vous et si ça avait été une défaite, je ne sais pas si le sens de l'histoire aurait été changé. Mais il est certain que la Restauration aurait rétabli un pouvoir, aurait étouffé les libertés, certainement pour de nombreuses décennies. Donc ce rôle-là, ces jeunes-là, on leur doit au moins autant que les constituants de 1789, que de ceux qui nous ont amenés à la liberté pour la Deuxième Guerre mondiale, pour la Première, pour toutes les conquêtes et pour tous les combats.
On avance, partie 5, les contours d'une civilisation nouvelle, les épreuves et les joies, c'est la partie 6. En fait, dans cette sixième partie, vous présentez un 20e siècle, comme dit le grand historien marxiste anglais Eric Osborne, un court 20e siècle, qui va de 1914 à 64, jusqu'à la 7e partie. Et là, vous évoquez, alors on va évoquer deux villes dans cette partie. La première, ça m'a beaucoup touché, parce que dans mon cours sur la vie politique locale en France, j'évoque cette situation. Il y a 9 communes en France qu'on appelle « Mortes pour la France », qui sont des communes fantômes. À ma connaissance, ça existe nulle part ailleurs dans le monde, où le registre d'état civil a été arrêté à zéro en 1918. Ce sont les communes qui sont juste au nord de Verdun, et qui étaient en zone occupée par les Allemands, le front. D'ailleurs, quand on y réfléchit, elles ont été canardées par l'artillerie française, et pour cause. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et alors, les noms sont Beaumont en Verdunois, Fleury de Beaumont, Cumières-le-Mortomme. Là, je m'adresse au président de la prestigieuse Association des maires de France, qui a 110 ans. Qu'est-ce que ça dit, à votre avis, de l'amour de la France pour ces 35 614 communes?
C'est le chiffre. Je pense que ça dit beaucoup. C'est-à-dire que on ne peut pas accepter, même au pire des épreuves qu'un pays traverse, la mort d'une commune. C'est comme un titre de journal, c'est comme une référence, c'est comme une œuvre, une création. Une commune, c'est une création, et un pays comme la France ne peut pas accepter la mort d'une commune. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que historiquement, la commune est aussi une des filles de la Révolution française, et l'appellation commune a été conçue comme étant l'appellation commune dans tous les sens du terme de ce qui était à l'époque les lieux-dits, les faubourgs, les paroisses, pour rassembler dans une appellation une idée d'un partage, d'une vie en commun et d'un intérêt collectif qui permet de décliner d'une part des services publics et d'autre part l'appartenance aux valeurs de la République. Et donc faire mourir une commune, c'est d'une certaine manière accepter la mort de l'application de la liberté, de l'égalité, de la fraternité sur une partie du territoire de la France. C'est ça que ça veut dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, effectivement, cette ville dans la Meuse a été complètement détruite. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants, mais il n'en restait plus. Mais il y a toujours un maire.
Voilà.
Il n'administre rien.
Délégation spéciale, un maire et deux adjoints choisis par le préfet de la Meuse dans les communes voisines. C'est la même chose pour Fleury, etc.
Exactement.
Il y a même un panneau sur la route, Fleury-Andoumont. Il y a intérêt à lever le pied parce que c'est limité à 50 et puis 100 mètres plus loin.
Oui, mais moi, même si vous n'avez personne, vous avez sûrement à la fin du stop un gendarme derrière qui vous
regarde. On sort de Fleury. Voilà, ça. Ouais. Donc ça, c'est une très belle histoire. La deuxième commune...
Et remarquez, il y a des cas très spécifiques. Je parle de Chambord, vous l'avez évoqué dans votre introduction. Oui. Alors Chambord, j'en parle pour les chasses présidentielles et la permanence du caractère régalien d'un certain nombre de traditions et d'arts synergétiques. Mais j'en parle, personne, on sait peu que Chambord, c'est un domaine qui fait 5500 hectares. C'est le domaine clos avec la plus grande forêt en Europe, serti de murs. C'est un château évidemment sublime qui est l'honneur de la France et aussi la grandeur de la Renaissance, de François Ier singulièrement, avec la salamandre que vous voyez qui est la référence de François Ier un peu partout. Mais surtout, il y a une commune, il y a des habitants, il y a des électeurs, il y a un maire, il y a un conseil municipal, mais la commune n'est propriétaire de rien, tout appartient à l'État.
Enfin, voilà. Et ça l'a quelque part un peu sauvé d'ailleurs. Au niveau synergétique, hein, vous dites.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même intéressant. Alors, de savoir. Voilà, vous avez un maire, un conseil municipal, des commune, habitants qui ne sont propriétaires de rien puisque tout appartient à l'État.
Je vous pousse, hein, je vous bouscule.
Ah, oui.
La dernière commune que je voulais qu'on évoque, là encore, vous allez dire que je suis malicieux, c'est Sablé-sur-Sarthe, 12 926 habitants. Il se trouve que j'ai connu, moi, son maire de 59 à 80, Joël Le Teul, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est mort brutalement. Et puis, je le précise évidemment, mais tout le monde le sait, puisque vous ne dites pas dans le texte que c'est François Fillon qui a été longtemps son maire pendant 18 ans. Il se trouve que je dis, peut-être que vous le savez, Pierre Perrand vient de sortir un livre tout à fait passionnant chez Albin Michel qui s'appelle Ma petite France, chronique d'une ville ordinaire sous l'occupation, c'est Sablé. Parce qu'il est originaire, il est natif de Sablé, Pierre Péan. Et pourquoi Sablé? Parce que vous avez choisi d'évoquer cette ville à travers la personne de Raphaël Élisée, qui a été le premier maire métis, enfin noir, on va dire, de France, et maire SFIO de 1929 à 1940. Et quand il prend ses fonctions, Raphaël Élisée, et vous citez ce passage, moi je trouve que c'est presque aussi beau que le discours d'investiture d'Obama, il dit... Raphaël Élisée, on n'a pas besoin, c'est un vétérinaire hein, qui est sorti major de l'école de véto de Lyon. On n'a pas besoin pour être un bon maire d'avoir de grandes lumières, une suite d'ancêtres illustres ou beaucoup de fortune. Il suffit d'avoir de la probité, du bon sens, vous êtes un peu taquin quand même, hein, un caractère conciliant et ferme et la volonté de bien remplir sa sarge. C'est un très beau texte. Et le maire que vous êtes et le président de l'Association des maires de France, pourriez presque d'ailleurs graver ce texte un peu en exergue.
Oui.
Et alors, il a raconté nous ce qui s'est passé avec les Allemands, parce que c'est terrible cette histoire.
Alors, Élisée, d'abord, qui a un nom absolument sublime pour ça. Alors, ça s'écrit pas pareil, mais enfin, bon, la phonétique nous permet de mettre en lumière cette histoire. Il arrive en 1919 à Sablé, les Martiniquais. C'est effectivement quelqu'un de très doué. Donc, en 10 ans, il devient maire alors qu'il s'installe dans une commune qu'il ne connaît pas. Il est un maire respecté, c'est un profond républicain, vous l'avez dit, il est SFIO. Et très vite, au moment où les Allemands commencent à occuper notre pays, il devient résistant. La fin est assez tragique, malheureusement. Il s'engage dans la résistance, il crée toute une série d'actions, de réseaux, de faux papiers, justement, pour aider des gens à se libérer. Il est arrêté. Parce qu'il est dénoncé et il est déporté à Buchenwald. Et malheureusement, il meurt quelques mois avant la libération en 45, parce que là où il se trouvait, ça avait été bombardé par les Alliés pour libérer le camp. C'est un personnage au fond immense, évidemment, de Sablé. Il rentre dans l'histoire pour ces deux raisons de mon point de vue. La première, c'est qu'il est le premier maire de couleur d'origine ultramarine sur le territoire métropolitain. La deuxième, c'est qu'il aura été l'un des acteurs majeurs dans cette partie de notre territoire de l'aspiration à la liberté contre l'occupant et donc de la révolte via la résistance. Et il est assez remarquable de ce point de vue.
Alors, dernière partie, c'est la septième.
Et le clin d'œil de Sablé est un clin d'œil, juste un clin d'œil.
Un clin d'œil, on l'avait entendu comme tel. Hein. Dernière partie, partie 7, dans le temps présent. Alors là, c'est passionnant. Il y a l'histoire des enfants de la Creuse, vous verrez, j'en dis pas plus. Vous évoquez la fameuse étape Brive-Puy-de-Dôme et le col de Cessa, c'est-à-dire la 12e du Tour de France 64, le duel Anquetil-Poulidor. Vous ne l'avez pas suivi parce que j'ai vérifié, vous êtes né le 21 juin 65. Moi, par contre, j'en ai encore le bruit dans les oreilles de cette étape à la radio. Vous parlez de Mamoudzou parce que vous avez été ministre de l'Outre-mer, donc c'est à Mayotte. Solutré, sa célèbre rôle de pèlerinage, Pointe-à-Pitre, Strasbourg, la rumeur d'Orléans, l'affaire Grégory. Et puis, je voudrais terminer, bon, c'est, là aussi, c'est peut-être un peu pour vous faire plaisir, mais évidemment, Sainte-Féréole, en Corrèze, on sait que c'est cher à Jacques Chirac. Hein, vous avez à l'occasion, vous évoquez, au-delà de l'exploitation partisane par la gauche, de l'image de Jacques Chirac, il y a au fond une très grande intolérance à dire qu'on apprécie un adversaire uniquement parce qu'on croit découvrir qu'il pense comme vous et qu'on peut l'annexer à sa propagande. La véritable tolérance, dites-vous, consiste à respecter l'autre en dépassant la frontière qui nous sépare et qui nous oppose. Aimer l'autre juste parce qu'il est d'accord avec vous, ce n'est pas vraiment aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. Alors, on parlait des morales de La Fontaine.
C'est dehors... valable hein, pour plein de choses.
Oui, hein, alors, il y a un côté très Saint-Exupéry aussi. Hein,
oui, c'est une réflexion. Oui, oui.
Voilà. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu votre manière, la manière avec laquelle fonctionne l'AMF, ou ce qu'on trouve aussi dans certaines intercommunalités, c'est-à-dire finalement un travail, on va dire, un travail entre gens de bon sens pour ce que Pierre Mendès-France appelait le bien public et le service de la nation.
Oui, bien sûr, un mot sur Jacques Chirac, si vous me le permettez. Il était évident qu'il avait sa place dans mon cœur, comme dans ce livre dont je suis l'auteur. Plein de choses pouvaient être racontées sur Jacques Chirac, aussi bien son rôle comme jeune ministre aux côtés de Pompidou et du général de Gaulle. Il a quand même été à la table du Conseil des ministres du général de Gaulle et un acteur majeur des accords de Grenelle au moment des événements 68, alors qu'il est tout jeune, il a 35 ans. Pouvait choisir son parcours comme premier ministre première fois ou premier ministre de cohabitation. J'ai choisi la conquête. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est magnifique. Toutes les images d'archives sont incroyables. C'est un acteur américain, la clope au bec à la Pompidou, de côté, 4 à 4, sourire, mettant la main sur le crâne d'un de ses copains en lui demandant comment ça va, Poussin.
C'est Marlon Brando sur les quais d'Elia Kazan. Hein. C'est cette allure-là. Hein.
Oui, enfin, voilà. En tout cas, il a un charisme fou, un magnétisme incroyable. Et la conquête à Sainte-Féréole, je l'ai raconté par l'angle du regard d'une première rencontre dont j'ai pu avoir le témoignage, qui était avec le petit Percueil. On a souvent dit que Chirac était un radical socialiste, mais au fond, c'était d'abord et avant tout un homme de rassemblement. Et ce rassemblement, il l'a puisé aussi dans ses maîtres, ce qui m'amène à la transition et à la conclusion de votre question. Et cet esprit de rassemblement, de tolérance, de respect des autres et de soi-même, qui ne veut pas dire qu'on est comme tout le monde, comme les autres, mais c'est-à-dire qu'on se respecte. Voilà, on a des adversaires, on les combat, mais on essaye de comprendre, on essaye si possible de les amener. Et puis si on n'y parvient pas, le débat politique doit toujours laisser place au respect républicain, au respect de l'autre. Et Chirac a toujours été animé de cela. Et il a toujours mis en valeur, y compris dans sa première quinquette, qui part d'une petite commune, Sainte-Féréole, et qui lui permet de devenir le député d'un département historiquement communiste depuis la Deuxième Guerre mondiale. On joue encore au maquisard et à l'occupant dans les années 60. Et c'est ça, Chirac. C'est cette conquête, c'est cette audace, c'est l'affiliation avec Pompidou, et c'est évidemment l'esprit du gaullisme. Pour le maire... un maire, par nature, c'est pour ça qu'il est l'élu préféré des Français, presque plébiscité. C'est parce que par construction, par définition, s'il est un bon maire, il placera toujours l'intérêt de sa commune au-dessus de ses engagements militants et partisans. Et l'Association des maires de France, effectivement, c'est la seule institution en France où vous laissez vos engagements militants au vestiaire, vous retrouvez autour de la table et puis ensuite vous définissez en quelque sorte un projet partagé dans la négociation avec l'État sur nos objectifs de défense de nos territoires. Et c'est pour ça que il faut protéger ces communes parce que ça produit des élus qui, au fond, sont la quintessence de cet esprit de rassemblement. Par-delà le militantisme qui est respectable, l'engagement soutenu autour de convictions, ce qui est tout à fait avouable et évidemment acceptable et nécessaire dans le débat démocratique, mais qui, dans une fonction particulière, vous amène dès votre élection et même dans la constitution des équipes qui vous accompagnent à rassembler le plus largement possible pour que tout le monde se sente concerné par la politique que vous proposez.
Merci beaucoup. Si on veut vous laisser dédicacer, je crois qu'on peut applaudir.
Merci beaucoup.
François Baroin.